J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qui a fait ça, c'est le bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et oui, c'est déjà la rentrée. Il a mis son petit cartable pour reprendre le chemin du studio de la radio. Bonjour Pascal.
Oui, sauf que je suis pas parti en vacances.
Oh pardon.
Et oui. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Ça faisait longtemps.
Ah, ça fait oui. Oui. Super longtemps.
Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 76. T'entracte.
Eh oui, 76.
Et on reprend, oui.
Eh oui, t'avais compté, hein, avant de partir en vacances.
Oui, et puis dans tous les cas, c'est parti, mais tes numéros sont marqués. Non, je suis pas parti. Non, tes numéros sont marqués sur les, enfin, les numéros de l'émission sont marqués
sur
le site.
Hein.
Exactement, ouais. Donc c'était facile à retrouver. Mais d'ailleurs, j'ai retrouvé mes derniers brouillons aussi dans mes papelards. Donc voilà. Donc je me perds jamais là-dedans, y a pas de souci, quoi. Donc oui, de retour.
De retour, et donc tu n'es pas parti en vacances et tu as fait tourner le cinéma avec tes collègues.
Exactement. Nous avons eu beaucoup de travail.
Et beaucoup de monde.
Cette année, oui. Alors d'habitude, évidemment, les cinémas sont quand même relativement bien fréquentés l'été.
Ouais.
Parce que,
il fait bon.
Les gens sont en vacances.
C'est frais.
C'est frais en plus. C'est vrai. Ça sert aussi à ça, du climatiseur, quand il fait trop chaud chez soi. Mais il faut savoir une chose aussi, que l'été, le cinéma est tourné vers les enfants.
Ah oui, c'est
donc
vrai.
Du coup, c'est
très familial.
Oui. Donc c'est pour ça que c'est quand même relativement bien fréquenté. Alors c'est aussi fort fréquenté, évidemment, quand il fait très chaud.
Ouais.
Mais aussi quand il fait froid.
Oui, les deux, c'est bien.
Il y a un épisode, non? Il y a eu un épisode de froid absolument redoutable dans le nord de la France. Alors nous, ici, évidemment, ça.
Oui, la France était coupée en deux.
Ouais, il a fait frais chaud, tranquillou, quoi. Mais franchement, tout ce qui était là-bas, sur la côte d'Opale, chez nos amis les ch'tis là-bas et tout. Oui, effectivement, ils étaient retournés en automne. Et là, j'imagine que les cinémas ont fait le plein.
Ouais.
Et oui, parce que c'est vraiment le loisir qui te reste quand tu peux plus aller à la plage et que tu as fait le tour un petit peu des activités, on va dire, extérieures, quoi. Et donc je pense que cet été sera vraiment un bon millésime pour le cinéma. Il n'y a pas qu'une histoire de météo. Il n'y a pas que ça.
Il y a aussi une bonne programmation.
Il y a aussi des films qui sont sortis du lot et des films qui ont eu une carrière relativement longue.
Ouais.
Et j'en veux pour preuve Oppenheimer.
Excellent film.
Qui a super
même s'il
bien,
fait 3 heures.
Il fait 3 heures, oui.
Bon, ça croche.
Pour un peu plus.
Ouais.
Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de le voir.
Hein. Ah,
je t'avouerai, tu l'as vu, toi.
Ah, bon. Je l'ai vu ici.
Alors tout le monde me dit, oui, grand film. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a pas eu que ça. Alors Oppenheimer, il était plus ou moins annoncé, on va dire. Mais alors celui qui personne n'attendait.
C'est Barbie.
C'est la petite poupée rose. Hein. C'est Barbie. Alors celle-là, on dit merci du fond du cœur parce que. Pour un film qui était censé être, on va dire, adolescent, on va dire, ça a touché toutes les strates, on va dire, de la population. Donc ça allait des enfants jusqu'aux personnes âgées, je dirais.
C'est étonnant, ça.
Voilà. Et en plus, ici, les chiffres ont été grossis aussi par toute la communauté anglaise, hein,
ouais.
qui est venue aussi voir ce film-là, parce qu'évidemment, on l'a joué en VO et en VF. Et donc du coup, ça franchement booste le chiffre. Alors merci à tous ceux qui font partie de la communauté anglaise qui sont venus à la brèche. Mais je pense qu'on a reçu cet été, tu sais quoi, vachement de monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui venaient d'Aimé.
Ah d'accord.
Tu sais où il y a beaucoup de,
oui,
d'anglais là-bas.
De résidents qui anglais, là-bas. Ouais. Voilà. Exact.
Et je pense que ça a aidé à booster le chiffre.
Avez commencé fort aussi, hein, il faut le dire, hein, puisque fin juin, début juillet, il y avait deux grosses productions qui sont arrivées au début de l'été.
Oui.
Notamment Indiana Jones, le nouveau, et puis Mission Impossible.
Il y a eu des gros films, si tu veux, des gros films annoncés,
ouais.
qui n'ont pas eu la carrière escomptée.
Ah ouais.
C'est-à-dire que Indiana Jones est assez rapidement, on va dire, cassé la binette. Et moi, je l'ai vu hein, au bout de d'une semaine déjà. Je commence à trouver les chiffres bizarres, surtout les chiffres nationaux. Et tu as aussi Mission Impossible qui a marchouillé. Voilà. Ouais. Ils ont pas eu une grosse carrière. Donc tu vois, ils avaient prévu des choses qui n'ont pas franchement fonctionné. Alors évidemment, il y a plein de raisons à tout cela. Il y a aussi la maladie des séries. Oui. Il y a ça aussi, tu vois.
Oui, on en parlait une fois dans l'émission. Ouais.
Et les gens aiment bien investir, enfin, je parle des investisseurs dans le cinéma, aiment bien investir dans des valeurs sûres, des valeurs qui vont marcher. Bon, mais au bout d'un moment, ça marche pas que comme ça aussi. Il y a peut-être des gens en ont eu marre de revoir les mêmes choses, on va dire. Alors, notamment pour Indiana Jones. Alors, moi, je l'ai vu, Indiana Jones, hein. Je me suis penché dessus, je me dis, tiens, mais comment
on devient jeune au début?
Comment on devient jeune, déjà, au bout de 90 ans? Non, je déconne, mais j'ai dit, comment ils vont le reformuler? En fait, ils l'ont pas reformulé. On retombe dans un format, on va dire, des années 80, fin 80, début 90, tu vois.
Ouais.
Avec les mêmes couleurs, puis. Moi, je trouve que c'était, il y avait un côté exubérant dedans. Il y avait de l'action sans arrêt. Tu vois, c'est limite, on va dire, un mal de tête. Le film est loin d'être mauvais, évidemment. C'est loin d'être mauvais. Mais voilà, il y a toujours la même schématique qui revient. Il y avait encore les vilains nazis, toujours. Toujours ces vilains nazis. En plus, ils l'ont pas loupé. Ils ont fait jouer Mads Mikkelsen, qui n'est pas allemand, d'ailleurs.
Oui.
Mais voilà, il avait la gueule de l'emploi, tout ça. Bon, c'est oui, ça fonctionne effectivement, mais on n'est pas surpris, on n'est pas surpris. Après Mission Impossible, voilà, qui n'a pas très très bien marché non plus, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas juger ce film-là. Mais voilà, mais il est toujours bon, tu vois, au cinéma, quoi. Comme je dis à chaque fois, je dis qu'il y ait des ovnis qui débarquent comme ça. Ouais. Barbie, je veux dire, il n'était pas attendu. Hein. Mmh. Barbie, la réalisatrice, elle a fait, je crois, les quatre filles du Dr March à côté, quoi, avant. Tu vois, c'était des films, qui étaient fréquentés, mais bon, c'est relativement classique. Et là, elle sort un truc où tout le monde se laissait, c'était l'effet, on appelle boule de neige, hein. Boule de neige.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup,
bouche à oreille, et
bouche à oreille, et ça a grossi, ouais. C'est bien qu'à un moment, on avait le hall du cinéma qui était plein, hein. C'était vraiment impressionnant, hein. On avait des soirs où on avait besoin d'aide derrière,
oui,
derrière le comptoir et tout. Et oui, donc voilà. Et c'est, ben voilà pourquoi on a passé un été chouette au niveau de la fréquentation, hein. Alors juste pour la petite histoire quand même,
tu as fait des petites recherches, hein.
J'apporte juste un chiffre quand même, hein. Du 1er juillet au 25 août, on a fait 10 169 entrées.
Ah, c'est énorme.
10 000. Donc, ce qui présage vraiment, on va dire, un bel automne et un bon hiver. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des films qui ont une belle carrière, on va dire, à l'automne et l'hiver, on va clôturer avec un score assez honorable. Hein. L'an dernier, on était à 50 000. Hein. Cette année, je pense qu'on peut-être qu'on va passer au-dessus. Hein. Mais non, mais rien n'y joue, évidemment. Hein. On est qu'en août. Hein.
Oui.
Mais ça augure de bonnes choses pour l'avenir.
En tout cas, une belle avance.
Oui. Donc voilà, tu t'imagines 10 000 entrées.
Mais disons, on fera un petit point justement sur les chiffres, Pascal, hein, au fil de cette nouvelle saison de rentrée sur Radio Grand Air. C'est toujours intéressant de voir un petit peu l'évolution, les tendances, les goûts, comment les gens se répercutent, hein, sur les films, les choix notamment, et les habitudes en fait. Hein. Bon, alors on va revenir sur le programme de cette rentrée. Et tu nous as choisi sept rendez-vous cette semaine à La Brèche.
Alors, oui. Alors, pour cette semaine, je vous ai sélectionné sept films. On va parler de la dernière création, un film pour enfants, hein, de Ricardo Cusso, Le rêve de Daisy. On va parler aussi d'un film qu'on aura en sortie nationale, le dernier film de Nathan Ambrosioni, Tony en famille. On va parler également de Vision, du dernier film de Dylan Goslan, qui est un thriller, hein, qu'on aura en sortie nationale aussi. Donc, comme tu disais tout à l'heure.
Avec Mathieu Kachowicz.
Mathieu Kachowicz
Diane Kruger. Oui, Diane Kruger. C'est ça.
On va parler aussi d'un film qu'on aura aussi en sortie nationale, de Christian Petzold. On va parler du Ciel Rouge. On va parler aussi du dernier film. Alors, c'est pas un film, c'est une compilation de deux créations de Pedro Almodovar. Donc, ça s'appelle L'Expérience Almodovar. Ce sont deux moyens-métrages.
D'accord.
On va parler ici également d'un film que nous aurons en avant-première avant sa sortie nationale, qui sera interdit moins de 12 ans, je tiens à le dire. Le dernier film de Michael Chavez, La Nonne 2. Oh, je pense que oui, c'est un thriller quand même. Hein.
Ouais, d'accord.
Et oui, je pense que ça va faire peur un petit peu quand même. Et on va parler évidemment de La Palme d'Or.
Ah oui.
Du film de Justine Triet, Anatomie d'une chute.
Très bien.
Et pour le personnage de la semaine, alors je sais pas trop qui prendre. Alors donc j'ai choisi un personnage qui est pas, je peux pas dire qu'il n'est pas très connu, mais il est connu, mais qui commence à prendre, on va dire, un peu d'épaisseur. J'ai choisi Swan Harlow.
Je ne connais pas.
Et oui, mais si, mais quand je vais te citer des films, tu vas dire ouais. Ah, oui.
Parfait, ben on va commencer cette nouvelle émission de rentrée, Pascal, avec toi, et surtout pour parler du rêve de Daisy, un rendez-vous jeunesse.
Alors, rendez-vous pour les petits, bien sûr, à partir de 6 ans. C'est un film australien, d'1h28, animation famille, donc de Ricard Cusso. Donc, dans son nouveau conte de la cité sanctuaire où tous les animaux vivent en harmonie, la cité s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de la peur, durant laquelle les animaux les plus féroces vont s'affronter dans l'arène. Daisy, une petite coca. Alors, oui.
Non, c'est pas le coca qu'on boit.
Non, coca, c'est... alors Q-U-O-2-K-A. Ah ouais. Alors, au début, je me suis dit, attends, je vais quand même
c'est
aller
pas
voir.
La feuille de coca.
Non, je vais aller voir. Non, du tout. Non, on est en Australie.
D'accord, oui, non.
En fait, c'est un marsupial. Ouais. C'est un marsupial. Et donc, incroyablement attachante, veut réaliser son rêve le plus cher, gagner ses jeux. Avec l'aide d'un ancien champion du monde banni de la cité, elle tentera tout pour surmonter les obstacles et prouver que même l'animal le plus mignon de la cité peut se réveiller effrayant. C'est quand même un drôle de concours.
Oui, exact.
Alors, le rêve de Daisy, il clôt la trilogie Conte de la cité sanctuaire créée par les équipes de Like Photon Creative pour l'avenir. Il s'agit d'une société qui vit en harmonie avec la nature, capable de reconnaître ses erreurs et qui privilégie la bonté, la tolérance et la générosité spirituelle. J'en connais une autre société qui devrait s'en inspirer. Les deux premiers opus sont L'arbre à vœux et Combat ou Embat. La productrice Nadine Bates explique. Comme beaucoup d'autres producteurs et écrivains australiens, Kristen et moi, avons été bercés par des histoires magiques, épiques et inspirantes durant toute notre enfance. Cependant, les histoires qui nous tenaient à cœur en tant que tout petits représentaient rarement le pays dans lequel nous vivions. Il y avait des histoires de hérissons, d'écureuils, d'ours et de fêtes de Noël enneigées. Et elle poursuit, elles étaient remplies de paysages verdoyants et vallonnés qui ne reflétaient tout simplement pas la broussaille sèche de l'arrière-pays australien et qui n'avaient rien à voir avec ce qui nous entourait. Notre environnement semblait parfois presque extraterrestre en comparaison avec la douceur des livres d'images et leurs personnages animaliers, qu'ils soient anglais ou américains. Donc, lorsqu'on nous a donné l'occasion de créer à partir de rien notre propre univers entier, nous avons sauté sur l'occasion de partager les merveilles et les bizarreries de l'environnement australien et de ses habitants. Je trouve ça chouette d'aller découvrir un petit peu d'autres écosystèmes. Donc, à la cité sanctuaire, vous trouverez des lézards à collerettes, les cocasses, dont je viens de parler, des crapauds bœufs. Vous voyagerez à travers les divers paysages qui nous entourent, parfois bruns et secs, parfois presque éclatants dans leur verdure. Nous avons pu montrer avec fierté la magie de notre monde immédiat et inscrire nos profonds espoirs pour l'avenir, confie Nadine Bates. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur l'écosystème du rêve de Daisy.
Ah, c'est bien de partir très loin comme ça dans un film d'animation. Je trouve que c'est assez ludique, assez intéressant de montrer aux enfants justement que voilà.
Il y a d'autres univers.
D'autres vies et surtout un monde très large hein, puisque notre planète est assez riche.
Bien sûr. Alors c'est pas les premiers. Ils ont déjà fait c'est arrivé d'avoir des films d'animation qui se passent en Colombie.
Exact.
Je me suis même plus trop le nom, mais c'est bien d'aller découvrir d'autres pays et d'autres personnages.
On n'est plus trop dans le rêve en fait. Hein. C'est des choses beaucoup plus réelles maintenant pour les jeunes et c'est bien de leur faire toucher du doigt.
Exactement.
Cet univers. Bon, mais donc on a noté ce rendez-vous cette semaine à la Brèche, le rêve de Daisy à ne pas manquer pour les plus curieux. On enchaîne avec un autre rendez-vous cette semaine, Pascal.
Alors on va enchaîner
Tony en famille.
On va changer pour une comédie dramatique. Hein, on va redescendre un peu sur terre. Comédie. Donc c'est un film français d'1h36. Tony en famille de Nathan Ambrosioni. Alors je n'avais pas trop entendu parler de cet homme-là. En 2019, il a réalisé Les Drapeaux de papier avec Noémie Merlant, Guillaume Goux et Sébastien Oubani. Et en 2016, il a réalisé Thérapie. Et là, Tony en famille, c'est son troisième film. Mais ce qui m'a étonné, quand même, en faisant mon papier, c'est qu'il a 24 ans.
Ah ouais.
C'est un jeune homme de 24 ans. Oui, j'allais voir sa fiche, là.
Un petit prodige.
Eh bien, écoute, il a 24 ans, il est déjà réalisateur, chef, monteur et scénariste. Je lui crois un bel avenir, commence à cet âge-là.
Chapeau bas,
ouais. Oui. Donc là, il est son troisième, troisième long métrage. Mais moi, je lui souhaite beaucoup de chance. Ouais. C'est la chance, hein, parce que je trouve ça courageux, en plus à son âge, de se lancer dans des projets aussi pharaoniques. Hein. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Camille Cotin, Léa Lopez, Thomas Garcia, Louise Labeck, Oscar Polo, Julian Nepuro, Catherine Moucher et Florence Muller. Alors Antonia, dite Tony, élève seule ses 5 enfants, un job à plein temps. Elle chante aussi le soir dans les bars car il faut bien nourrir sa famille. Tony a du talent, elle a enregistré un single qui a cartonné, mais ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ses deux aînés s'apprêtent à rejoindre l'université. Alors Tony s'interroge, que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer? À 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main? Ça, c'est une drôle de question. Alors le titre s'est imposé dès le début de l'écriture et le réalisateur, donc Nathan Ambrosioni, explique « Tony, c'est d'abord le personnage principal dont je voulais raconter l'histoire. J'ai une grande affection pour le cinéma portraitiste, celui qui dépeint un monde à notre hauteur, qui n'évoque pas l'extraordinaire. Noah Baumbach, Richard Linklater, Hirazuki Korea, Eda sont des références essentielles pour moi. Ce sont des réalisateurs. Ouais. » Tony, c'est aussi un hommage au métier d'acteur, spécifiquement à la comédienne Toni Collette, dont j'admire le travail, en particulier l'ambiguïté qu'elle insuffle à ses rôles. Enfant, Tony n'est pas un prénom, mais un surnom, qui plus est un surnom ambivalent. On ignore s'il désigne une femme ou un homme. Je tends à l'instar de ma génération vers un cinéma qui ne genre pas son regard. Alors Nathan Ambrosioni voulait interroger ce moment très spécial d'une vie où on le remet tout en cause, en l'occurrence le statut de mère célibataire quasi au foyer. Tony y passe la majorité de son temps et constitue donc une condition sociale ultime. Le réalisateur précise. On imagine que Tony doit une dévotion absolue à ses enfants, qu'elle construit tout en fonction d'eux. Tony en famille s'est allé contre cette image-là, imaginer les choses autrement. Tony m'intéresse car son statut social fait d'elle une réelle héroïne et une héroïne du réel. Elle se rend compte de façon très simple qu'être mère c'est fabuleux, mais c'est aussi une condition frappée par une obsolescence programmée, celle du jour où son dernier enfant quittera la maison. Tony ne se contente pas de ça et son âge. 43 ans confère à sa situation une forme d'urgence. À sa manière, elle est comme les ados qui, à la fin du lycée, doivent se choisir une voie professionnelle. Elle est traversée par les mêmes interrogations. Elle se rend compte qu'en raison de son âge, la société ne l'encourage pas dans la voie qu'elle envisage. Alors évidemment, il a choisi Camille Cotin. Tu vois pas qui c'est Camille Cotin?
Alors, si. Je l'avais sous les yeux il y a quelques instants.
Ah, tu vois. Donc adolescent, Nathan Ambrosioni était fan de la série Conas. Tu te souviens de ça quand même?
Je me rappelle.
Sa nonchalance était fascinante. Puis il y a eu 10%, Stillwater, House of Gucci. Tous ces rôles m'ont accompagné. Elle était dans ma cinéphilie. J'espère que Tony, ce soit elle. J'avais son phrasé en tête quand j'écrivais. Elle a quelque chose de très particulier dans le ton de sa voix. Ça scansionne, sa façon de s'exprimer, une largeur mêlée d'autorité et de tendresse dont j'avais besoin. Je voulais donc exprimer quelque chose d'extrêmement doux à travers ce rôle. Camille représente tout ça, confie le cinéaste. Donc il a quand même bien ciblé son personnage avant d'écrire son scénario. Alors Nathan Ambrosioni a choisi de montrer une fratrie de 5 enfants au physique très hétérogène. À travers ces derniers, il a voulu traduire toute la diversité de caractère de ses amis. Il développe. Ils sont vraiment à l'image des lycéens et collégiens que j'ai côtoyés. Ils ont des envies complexes et des espoirs variés. Pour Tony, cela constitue une source supplémentaire de difficultés, car elle doit faire face à tous ces tempéraments forts, ce qui n'est pas évident quand, comme elle, il s'agit encore une fois de se trouver. Les jeunes comédiens se sont révélés très impressionnants. Ils se sont appropriés la personnalité de leurs personnages respectifs avec une aisance déconcertante. L'adolescence est un terrain de cinéma fabuleux, le lieu des rêves et des envies. Et je voulais le dépeindre de façon très précise. C'est pour cela qu'il n'y a aucune improvisation entre les jeunes dans le film, à part 3 petites scènes. Je tenais au respect des dialogues à cette idée que cette fratrie est un langage commun, spécifique, qu'ils s'échangent fringues et expressions. Une drôle histoire de famille.
C'est clair.
Un sacré sujet. Tony, en famille, à découvrir donc à la brèche cette semaine.
Avec un jeune réalisateur. Et on va justement goûter au plaisir de ce film avec un extrait de la bande-annonce.
Il faut y aller là, allez vous arrêter.
Ça fait 5 cadeaux d'un coup, je les présente.
Ah.
Ils sont super mignons, tu vas voir.
Je savais pas, bonne soirée.
Ah bon, t'es sûr?
Maman Camille!
T'es sérieuse là? T'as l'air encore blessée sur le parking.
Fun,
Marcus.
Fun, on est en 2010 ou quoi?
Mathilde.
Et dans 10 ans, vous vous voyez où?
Dans 10 ans? Oui.
Ça doit faire pas mal de bruit les 5 ensemble.
C'est mon papa.
Tu sais, je crois que j'ai envie de faire autre chose.
Mais tu sais faire autre chose au moins?
J'ai rien fait d'autre et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre.
et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Plutôt à l'aise avec les gens, les enfants, ça me connaît. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être m'ensembler. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire.
T'es malade?
Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université.
Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée des étudiants de votre âge et les 3/4, je ne les vois pas aller au bout.
Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt?
C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même.
Je t'aiderai, moi, s'il faut. J'aurais pu aller te voir de Mathilde et Marcus à faire, donc je vais avoir du temps.
On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. Je suis tellement fière d'être votre mère. Je peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens super. Et que moi, j'ai envie d'être à la hauteur. Et tu sais, je sommeille, maman. Oui, bien sûr.
Voilà. Nous sommes en famille, Tony en famille, Camille Cotin de retour, et à voir sur les écrans cette petite famille.
Exactement.
Qui m'a l'air fort sympathique. Hein.
En sortie nationale.
Voilà, une très très bonne idée de sortie. On s'enchaîne avec un autre rendez-vous cette semaine, Pascal, troisième sélection à la brèche, et cette fois-ci, entre réalité, cauchemar,
fiction,
angoisse, fiction.
Mauvais rêve, un thriller.
Prenez l'avion.
Un thriller. Vision.
Ouais.
Le dernier film de Yann Gosselin. Alors, il a réalisé en 2021 un film qui parle aussi d'aéronautique. Avec Pierre Niney et André Dussolier. Comme quoi, il aime bien ces milieux-là.
Ah ouais.
Boîte noire.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui.
Exact. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu ce film.
J'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais tu vois, j'ai relevé ça parce que je me dis, tiens, c'est le même, un petit peu le même univers. Parce que Diane Kruger, elle est aviatrice, elle est pilote de ligne dans le film.
Oui, exact.
Donc c'est un film français donc de 2 heures de Yann Gosselin, un thriller. Donc on aura en sortie nationale. Alors au niveau des acteurs, on a Diane Kruger.
On a du lourd.
Mathieu Kassovitz, Marta Nieto, Amira Khazar. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
C'est vrai.
Ah ouais, la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était de la vérité si je mens, mais
c'est
peut-être qu'il en a fait d'autres.
Ouais.
D'ici. Ouais. Grégory Fitoussi, Elodie Navarre, Romain Fleury et Yoon Lai. Alors, pilote de ligne confirmé, Estelle mène entre 2 vols, long courrier, une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur.
C'est Mathieu
Kassovitz. Exactement. Un jour par hasard, dans un couloir d'aéroport, elle croise la route d'Anna, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt. Estelle est alors loin d'imaginer que ses retrouvailles vont l'entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer la vie dans l'irrationnel. Un thriller de Yann Gosselin à découvrir à la brèche en sortie nationale. Alors, mais j'ai pas trouvé de fiche sur le film. Hein. Je suis vraiment désolé. Ouais. Hein, j'ai pas de documentation dessus.
Alors, je sais qu'il y a la bande annonce qui tourne en ce moment à la télévision.
Oui,
hein, ils font pas mal de la promo.
Ouais,
hein.
Ouais, mais j'aime bien la bande annonce.
Ouais.
L'augure.
Ça te met carrément dans l'ambiance.
Ah, hein, oui,
l'entrée,
oui.
On est pris dans le film. En tout cas, on espère que ce film va bien marcher.
Ah oui, je pense aussi, moi aussi. Ouais, mais ouais, c'est, il a de bonnes chances de faire des entrées. Hein. J'aime bien le sujet. Puis moi, j'ai bien aimé les images, du film annonce. Ouais, ça a l'air vraiment sympa.
Avec une excellente actrice.
Puis il y a Dan Kruger.
Ah oui,
Diane
c'est
Kruger,
ça.
Elle est charmante.
Ah, elle est charmante. Et elle joue toujours dans des films assez tendus.
Un peu
comme
carton,
ça.
Ouais.
Ouais,
c'est vrai. Oui,
je me rappelle Sans Identité, film avec Liam Neeson où elle se retrouve. Elle était chauffeur de taxi. Et elle prend dans son taxi un individu qui, en fait, il a un accident et il se rappelle plus du tout.
C'est Liam Neeson qui prend. C'est ça, c'est lui.
Exactement.
Qui est dans le taxi.
Oui,
sans
identité,
ça y est.
Et en fait, il était là pour un contrat, mais on va le découvrir sur la fin du film.
Oui, et puis tout dérape.
Ah oui, c'est
tout
ça.
Tout dérape au fur et à mesure. Oui.
Quel suspense.
Donc voilà, donc Vision, donc le dernier film de Yann Gosselin, donc à découvrir à la brèche, donc en sortie nationale.
C'est noté. Cette fois-ci, on va retrouver Le Ciel Rouge. Alors, est-ce que c'est vraiment le Ciel Rouge que l'on parle ou pas?
Ah, je vous laisse le découvrir. Ciel Rouge, donc un film qu'on aura aussi en sortie nationale, hein, évidemment. Un film allemand d'une heure 42. C'est un drame, une romance, hein, de Christian Petzold. Alors, ce film a eu un prix et 7 nominations. Il a décroché l'Ours d'argent, donc le Grand Prix du jury à la Berlinale de 2023.
Ça c'est bien.
Et il y a 7 nominations derrière, donc un film qui a marqué un petit peu les spectateurs. Au niveau des acteurs, on va retrouver Thomas Schubert, Paul Haber, Langston Willel, Eno Treps et Matthias Brandt. Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes, il n'a pas plu depuis des semaines.
Et la mer est froide.
Quatre jeunes gens, oh, j'en doute fort. La Baltique. Oh, bah oui, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est très au nord. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s'enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l'amour, mais aussi la jalousie, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent et très très vite, les flammes sont là. Tu comprends mieux pourquoi le ciel est rouge.
Ah oui, d'accord. C'est comme le film En plein feu avec Dussolier.
Ouais, c'est ça. Hein, Dussolier, ouais, ouais, exact. Donc, Christian Petzold a eu l'idée du film à l'époque du premier confinement. Et le cinéaste s'est demandé pourquoi ces restrictions touchaient d'abord les enfants et les jeunes. Et il développe. À cette époque, j'étais moi-même alité avec le Covid et j'ai regardé un grand nombre de ces films d'été français et américains. Ce sont des films qui montrent comment on devient quelqu'un dans une situation exceptionnelle de vacances où l'on ne contrôle rien. Dans le cinéma français et américain, ce mois d'été sont pour les jeunes un monde dans lequel ils doivent devenir quelqu'un à partir d'eux-mêmes, mais aussi à partir de leur rencontre avec le monde. C'est le dernier été avant l'entrée dans l'âge adulte, le dernier été d'insouciance. En même temps, c'est peut-être un peu le dernier été pour tout le monde parce que les forêts brûlent. C'est le bruit de fond pour ce film, pour le travail autour du film. Donc Le Ciel Rouge s'inspire de ce qui est un véritable genre dans de nombreux pays, à savoir le film d'été. Des jeunes gens qui s'en vont passer l'été ensemble quelque part. Le réalisateur, donc Christian Petzold, confie. Dans le cinéma américain, cela donne souvent des films d'horreur, une région inconnue, un raccourci, une maison dans les bois. Et l'horreur commence. Dans les films français, les films d'été avec des jeunes sont souvent des sortes d'éducation sentimentale. On en a à la plage, les classes se mélangent, les gens passent à l'âge adulte. Et comme les Allemands aiment rêver, j'ai voulu que ce film d'été allemand commence dans la tradition des rêves romantiques allemands. La forêt, le demi-sommeil, la musique, deux jeunes hommes qui roulent en voiture et se perdent. Ils sont à la dérive. Avec ce début, rien n'est encore posé. Si ce n'est cette chose-là, c'est du cinéma. Alors Christian Petzold a mis du temps à trouver cette ancienne maison forestière cachée quelque part dans la forêt. Pour le metteur en scène, ces maisons-là ont quelque chose de féerique, et il précise. Et ce qui est féerique ici, ce n'est pas que les gens découvrent la maison, mais que la maison attende les gens. Lorsque Léon et Félix y arrivent, nous n'avons qu'un bref plan d'ensemble. Dans le plan suivant, nous sommes dans la maison et les voyons filmer depuis l'intérieur ouvrir la porte. Nous entendons que la maison a déjà ses propres bruits, en l'occurrence une machine à laver. Cette maison n'est pas innocente, elle les attend. Le travail de préparation avec Gruber, le décorateur, ou Hans Fromm, le caméraman, est toujours extrêmement important. Nous avons construit l'intérieur, les murs et les fenêtres. Cette maison devait sembler être la maison de parents qu'il avait aménagée il y a 15 ou 20 ans. Elle devait raconter que ses habitants aimaient y séjourner. Et en même temps, ses portes, ses fenêtres et les axes visuels devaient être conçus de façon à ce que l'on puisse regarder les gens sans être visible soi-même. C'est vrai que tout à l'heure, tu sais, il parle du cinéma américain avec les maisons perdues dans les bois, mais ça me fait penser à un film d'entrée.
Ouais.
Lequel? Oh, il y en a plein, mais alors il y en a un, tu vois.
Le projet Berlouis.
T'as celui-là, mais alors, franchement, celui qui peut avoir vraiment la position numéro 1. Evil Dead.
Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Ouais.
La bringasse dans la cabane au milieu des bois qui vire au cauchemar. Donc, il était important pour Christian Petzold que la maison se trouve au milieu d'une clairière. Sur le chemin qui y conduit, Léon est seul dans la forêt et il a peur. Et la peur, c'est la peur de l'abandon. Léon travaille à son deuxième roman. Il ne sait pas qui il est, qui il pourrait être. Il est perdu dans la forêt comme il est perdu en lui-même. Et cette maison, au milieu de la clairière, est un lieu protégé. Elle est entourée d'un mur d'arbres. Plus tard, lorsque Léon voit pour la première fois la jeune femme, l'intruse, elle est toute seule. Elle étend le linge en sifflotant. Pour elle, la clairière est un lieu de liberté et d'insouciance. Quant à Léon, on ne le voit jamais faire quoi que ce soit. Il n'étend pas le linge, il ne cuisine pas, il ne va pas se baigner. Il veut échapper au monde. Pour lui, la clairière est une forteresse. Développe le metteur en scène. Alors l'incendie, le feu. Christian Petzold ne voulait pas créer ce danger artificiellement avec la chaleur et les visages en sueur comme dans un western italien. Le cinéaste a préféré que l'incendie surplombe l'ensemble tout comme une cloche de sécheresse. Ce qui est intéressant, c'est que le paysage, comme il nous dit, semble tellement vert alors qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant les 7 semaines du tournage. Et pourtant, il y a eu plusieurs incendies de forêt parce que tout était tellement sec. La forêt brûlée, nous l'avons filmée près de Treuenbreitzen, je suis désolé si je prononce super mal, et là les braises et la chaleur s'étaient enfoncées profondément dans le sol. Cette sinistre fantomatique dans une forêt brûlée. Il n'y a plus de bruit, plus de vent dans les feuilles, plus d'oiseaux, plus d'insectes. Tout a disparu, se rappelle-t-il. Alors, Christian Pelletier, il a regardé beaucoup de films d'Eric Rohmer, ce qui ne m'étonne pas, vu le comment il plantait son décor. Donc il va toujours vite, comme il l'explique d'Eric Rohmer, il va toujours vite dans ses films. Quelqu'un monte dans la voiture, coupe, Paris, coupe, entrée, descend de la voiture, clac, clac, il répète ses enchaînements, et cela donne une structure au film. Et c'est dans cet esprit que ce rideau bleu de la chambre, de l'étage, de la maison a été pensé comme une structure, premier jour, deuxième jour, troisième jour. On entend les ébats des amants, mais en même temps, comme chez Rohmer, ces images doivent avoir une beauté intrinsèque, quelque chose de particulier. La lumière change, le vent tourne, ce sont les sensations d'une nuit d'été. Pour moi, cet état-là est toujours un état de bonheur. Nous avons commencé le film par un état de demi-sommeil, avec cette dérive dans la forêt, la musique, et cela se poursuit tout du long. Léon se réveille la nuit dans une maison inconnue, il voit la beauté du clair de lune et les rideaux, mais en même temps, il doit écouter les autres qui, au même moment, sont au comble du plaisir et écoutent de la musique. Cela renforce son sentiment d'exclusion. Il s'exclut du monde parce qu'il croit que la distance fait partie du métier d'écrivain. Il n'a pas encore compris que ce n'est en aucun cas une position. Voilà un petit peu pour vous donner l'étrange atmosphère dans laquelle va se dérouler.
Ah, c'est angoissant.
Ciel
hein.
Rouge. Ouais. Je t'ai dit, c'est un petit air Devil Dead, avec évidemment les monstres en moi, les forces maléfiques en moi. Mais on sent vraiment l'atmosphère pesante et chaude de l'été. Ouais. Avec des gens qui sont pas forcément faits pour s'entendre, quoi. Et je pense que c'est des ingrédients qui sont assez chouettes pour venir découvrir. Donc, Ciel Rouge à découvrir à la Brèche cette semaine.
Alors, c'est vrai qu'avec les phénomènes de climat en ce moment, ça inspire pas mal de réalisateurs, hein. On parlait effectivement de En plein feu. Bon, ce film-là, le Ciel Rouge, il y a une autre atmosphère derrière aussi, mais la thématique des feux de forêt est assez, souvent évoqué dans les films ces temps-ci. Hein.
On le voit de plus en plus. Mais alors hélas, parce que aussi ça ponctue aussi l'actualité. On parlait de Hawaï il n'y a pas très longtemps.
Exact.
Il y a eu les Baléares.
Le Canada.
Il y a le Canada. Le Canada, c'est monstrueux. Ouais. Enfin, vu de satellite, c'est monstrueux à voir. Hein.
Ouais.
Et voilà, on a le droit de se poser aussi la question de savoir jusqu'où tout ça va aller. C'est-à-dire, c'est juste est-ce que tout va cramer, finir par cramer à force. C'est quand même assez inquiétant. Alors nous ici, évidemment, on l'a vécu en Gironde. Dieu merci, on n'en a pas eu. On a eu dans le sud de la France.
Des vents favorables année, dans l'ambiance.
On a oublié le Portugal, on a oublié l'Espagne, la Grèce.
Oui, la Grèce.
Ça a flambé partout.
Les Canaries.
C'est les Canaries, exact. Donc c'est
les États-Unis aussi.
Les États-Unis, oui, bien sûr. Donc c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, cette espèce de train d'incendie qui n'en finissent pas. D'ailleurs, il devient monstrueux, enfin celui du Canada. Il était quasi inarrêtable. D'ailleurs, je crois que ça crame encore.
Oui, absolument.
Et
ouais.
Ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui partent en fumée. Ce sont des forêts qui vont mettre du temps à se régénérer. C'est de la faune qui est perdue, voire qui va disparaître ou qui en passe de disparaître. Ouais, c'est un phénomène quand même assez inquiétant. Je comprends aussi pourquoi ça inspire aussi certains films, quoi.
En tout cas, Le Ciel Rouge vous attend dans les salles de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande. Allez faire un tour dans cette ambiance très chaude, très, on va dire, très...
Le Ciel Rouge?
Ouais.
Romérien, on va dire. Non, Romérien, quand tu as cité Eric Rohmer, c'est là, oui, effectivement. Oui. C'est vrai qu'on l'aurait presque deviné rien qu'en lisant un petit peu. Ouais.
La touche personnelle.
Ouais, son travail sur le scénario et comment il a un petit peu anticipé ses scènes, ses cadres, l'intérieur, l'extérieur. Et surtout, ses personnages bien marqués. Des gens qui s'excluent, mais qui doivent cohabiter dans un endroit où en fait ils peuvent pas s'échapper ou se retrouver eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils sont en groupe. Et et ça fait une drôle d'atmosphère. Hein. C'est un film qui donne envie d'aller le voir quand même.
Et bien sûr, avec une clim qui vous attend dans les salles.
Ouais,
si on prend un petit peu de chaleur à travers le film, on va aussi se rafraîchir derrière l'écran. L'expérience à Moldovar. Alors là, c'est en deux volets, tu disais tout à l'heure.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? C'est un hommage à Almodovar?
Alors, c'est pas un hommage à Almodovar, ce sont deux, on va dire, un moyen-métrage.
D'accord.
Donc, ça s'appelle L'expérience à Almodovar, c'est un film, ce sont deux films, donc, hispano-américains.
Ouais.
D'une heure. Alors, évidemment, ils font 30 minutes chacun, hein. C'est un drame western, donc de Pedro Almodovar, évidemment. Alors, Pedro Almodovar, il a réalisé en 2019 Douleur et Gloire, en 2021 Madres Paralelas, j'en passe, hein. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pascal et José Candés.
Ah, moi je suis déçu.
Pourquoi ?
Bah, il manque Penélope Cruz.
Alors, elle n'a pas forcément joué dans tous ses films.
Ah oui, mais. Et puis, je crois c'est souvent qu'il a choisi.
Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu la choisir là-dedans. Mais non, pas du tout. Donc, ce sont deux moyens-métrages. Donc, le premier, ça sera Strange Way of Life. Alors, celui-ci, évidemment, il est sorti cette année. Hein. C'est l'histoire de Silva qui traverse le désert à cheval pour retrouver Jake, qu'il a connu 20 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d'enfance, désormais shérif, mais ses retrouvailles ne sont pas sa seule motivation. Moi, j'ai vu les premières images, franchement, oui, t'es dans un western, il n'y a pas de souci.
Ah ouais.
Oui. Et le second, il y a quelques années quand même, ça s'appelle La Voix Humaine. Il est sorti en 2020. Et c'est l'histoire d'une femme qui regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant, qui est censé venir la chercher, et d'un chien agité qui ne comprend pas pourquoi son maître l'a abandonné. Deux êtres vivants face à l'abandon. Voilà un petit peu le pitch de ce deuxième donc moyen-métrage de Pedro Almodovar. Hein. Donc l'expérience Almodovar, ça sera à découvrir donc à La Brèche cette semaine.
En version originale.
Ça sera en VO bien sûr. Oui, j'ai oublié de le préciser, pardon.
C'est très important.
Ouais, parce que du Almodovar, franchement, en VF, bon, mais oui, on peut l'envisager.
C'est pas pareil.
Mais ça chante moins.
Hein. Ouais.
Ça chante beaucoup moins. Bon, dans tous les cas, ça sera pas en espagnol, hein. Ça sera en anglais. Hein.
D'accord.
Oui, c'est les westerns.
Ben oui, très important. On va revenir sur notre rendez-vous. Si vous avez envie de vous faire peur, si vous avez envie de transpirer à nouveau, eh bien, allez voir ce film, La Norme. C'est un...
La Nonne.
Non, oui, c'est une
moi
norme.
Qui écris mal.
C'est La Nonne.
Désolé.
Oui, La Nonne.
La Nonne numéro 2.
Ah oui, ah parce qu'il y a des...
C'est le deuxième volet.
Je l'ai vu le premier...
Ah non, du tout. Mais moi, je suis pas très épouvante horreur.
Ouais.
Ça m'arrive des fois de me pencher dessus, ça m'arrive voilà par curiosité, mais c'est pas franchement, on va dire, ma tasse de thé. Voilà, j'avais des amis qui étaient vachement branchés, on va dire, horreur, épouvante, et j'en ai vraiment...
L'exorciste du Vatican, là, on en avait parlé il y a quelques temps,
oui.
ici, autour de ces micros, Pascal,
oui.
Ça avait fait... Ça avait fait de belles entrées, en tout
ouais,
cas.
Oui, il a fait quelques entrées, oui. Ouais. Bon, ça n'a pas été non plus le film du mois, mais il avait fait quelques entrées. Mais celui-ci, il était quand même intéressant, parce que c'était un biopic.
Ouais.
Tu vois, c'était pas
ouais.
une création, quoi. Donc,
exact.
Je trouvais ça plutôt chouette d'aller voir un petit peu est-ce que c'était vraiment un prêtre exorciste, en plus mandaté par le Vatican. Et,
ouais.
Donc, voilà. Donc là, mais là, on est vraiment dans la fiction. Enfin, j'espère qu'elles n'existent pas, les nonnes, deux. Film américain d'une heure cinquante. Épouvante horreur de Michael Chavez. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Bonnie Aarons, Thaisa Farmiga, Storm Reid, Anna Popplewell, Kathleen Rose Downey, Jonas Bloquet, Léontine Doncieux et Margot Morris. Moi j'aime bien Léontine Doncieux.
Oui, ça fait très
français,
ça fait riche.
Très
hein.
Frenchy.
Ouais. C'est vrai.
Et bien c'est pas compliqué, le pitch est en deux lignes. Le mal n'a jamais été aussi proche. Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, revient. Trois petits points. Dans le sud de la France, accrochez-vous les gars, allez ici.
Dans le sud de la France.
Oui, je répète, dans le sud de la France.
D'accord.
Voilà.
Bah, j'aurais pas passé mes vacances là-bas alors.
Donc voilà, elle débarque.
Ouais.
Cette semaine à La Brèche.
Si vous croisez la nonne.
La nonne, oui.
Je vous donne le numéro de téléphone de Pascal. Hein,
ouais, voilà.
On sera quoi faire.
Ou de police secours. On va donner le tien, tu vas voir. Tu vas pas être déçu.
Ça sera son répondeur.
Donc voilà, une petite frayeur de l'automne. C'est vrai que la saison recommence. Hein. C'est vrai que plus on arrive vers l'automne, l'hiver.
Ouais, il faut se faire peur un petit peu.
C'est
là,
la saison, mais oui, mais c'est aussi.
C'est un petit peu la mode, on disait. Ça ressort un petit peu les.
Ça revient un petit peu.
Ouais.
Ça revient, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Hein, mais c'est quand même. C'est pas des films qui font énormément d'entrées, à part dans les grandes villes. Mais pourquoi pas, hein, moi je veux bien croire, j'aimerais bien que ce soit un genre qui revienne un petit peu sur le devant de la scène, qui est un petit peu de renouveau par rapport à ça. Mais tu sais, on en avait parlé une fois. Hein.
Oui.
C'est un genre qui se consomme énormément à la maison.
Oui, c'est vrai.
L'épouvante horreur.
En huis clos.
C'est tout le monde sur le tapis, regarder l'écran, c'est en groupe. Pour se faire
manger
des
chips.
Pour se marrer, oui, c'est ça. C'est voilà, et ce qui est pas plus mal quelque part, je veux dire. Tu peux pas faire ça dans une salle de cinéma. Tu peux pas aller avec des potes et puis déconner, quoi. C'est interdit. C'est pas bien pour les autres. Mais voilà, donc j'espère que ça fonctionnera quand même, hein, mine de rien. La Nonne 2.
Voilà, c'est noté, Pascal.
Et enfin, La Brèche, cette semaine, pour cette semaine de rentrée, ce début de mois de septembre, on va revenir sur un film qui a reçu une récompense au Festival de Cannes. C'est un drame policier qui a fait beaucoup parler de lui, ce film.
Ah oui, ça c'est évidemment, c'est la Palme d'Or à Cannes. Comment ne pas faire la première émission de la saison sans parler de la Palme d'Or quand même. C'est quand même important. Et oui, c'est Anatomie d'une chute, un film français de 2h30, c'est un drame thriller judiciaire de Justine Triette. Alors, elle a réalisé en 2019 Sibyl, hein, avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donc c'est pas quand même, c'est pas son premier film, hein. Donc évidemment, ce film a reçu évidemment la Palme d'Or à Cannes en 2023, plus 4 nominations derrière. Hein. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Sandra Hüller, Swan Harlow, dont on va parler tout à l'heure, Milo Macado, Graner, Antoine Reinhardt, Samuel Taïs, Johnny Bett, Saadia Ben Taïeb et Camille Rutherford. Alors je dirais presque d'illustres inconnus, à part Swan Harlow. Mais ça c'est bien, je trouve.
Mais comme quoi.
Oui. Eh oui. Alors c'est l'histoire de Sandra et Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, qui vivent depuis un an, loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Donc suicide ou homicide, point d'interrogation. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.
Ben oui.
Et j'imagine que c'est la chute.
Ben oui.
Donc c'est évidemment sur la défaite d'un couple. Hein. Avec Anatomie d'une chute, Justine Triette souhaitait faire un film centré sur la défaite d'un couple. L'idée était pour la réalisatrice de raconter la chute d'un corps de façon technique et d'en faire l'image de la chute du couple et d'une histoire d'amour. Et comme elle nous dit, ce couple... Un fils qui découvre l'histoire de ses parents dans un procès. Procès qui dissèque méthodiquement leur relation. Et ce garçon passe du stade de l'enfance, incarné par la confiance absolue envers sa mère, à celui du doute. Et le film va regarder ce passage. Dans mes précédents films, les enfants étaient présents mais n'avaient pas la parole. Ils étaient là mais on n'avait pas leur point de vue. C'est comme si le moment était venu d'intégrer le regard de l'enfant au récit, de le mettre en balance avec celui de Sandra, le personnage central. Le film est peu à peu devenu comme un long interrogatoire, de la maison au tribunal, et ce n'est qu'une succession de scènes où les personnages sont questionnés. J'ai voulu revenir à plus de réalisme dans le sens quasiment documentaire, que ce soit à l'écriture ou formellement. Mais c'était pour aller plus loin dans la complexité, dans ce que raconte le film, autant que dans les émotions qu'il peut produire. Tout a été vers un plus grand dépouillement. Il n'y a eu aucune musique additionnelle. Le film est plus brut, plus nu que mes précédents, confie Justine Triette. Donc, Justine Triette a écrit Anatomie d'une chute pour Sandra Hüller, qui est l'actrice principale du film. La cinéaste voulait travailler avec la comédienne après Sibyl. Donc j'ai cité le film tout à l'heure. Mmh. J'ai écrit pour elle, elle le savait. C'est une des choses qui m'ont stimulé dès le départ. Cette femme libre qui est finalement jugée aussi pour la façon qu'elle a de vivre sa sexualité, son travail, sa maternité. Je pensais qu'elle apporterait une complexité, une impureté au personnage, qu'elle éloignerait totalement la notion de message. Et puis on s'est véritablement rencontrés sur le tournage. Alors Justine Triette a co-écrit le film avec Arthur Ahari. Le scénario n'est pas adapté d'un fait réel, mais la réalisatrice a voulu que l'ensemble soit le plus authentique possible. Les scénaristes ont fait appel à un avocat pénaliste, Vincent Courcelles-Labrousse, qu'ils sollicitaient sur les aspects techniques du film, mais aussi sur la conception française de l'audience. Ce qui nous a surpris, c'est le côté un peu bordélique d'un procès en France, contrairement aux États-Unis où la parole est distribuée de façon plus rigide. Cet aspect m'a permis de faire un film très français, et de prendre le contre-pied du film de procès américain, beaucoup plus spectaculaire. L'idée, c'est d'assister à des blocs ininterrompus, d'audience, s'est imposée. J'ai passé mon temps à demander à mon monteur, Laurent Sénéchal, de ralentir le rythme, de garder les plans imparfaits, flous, un peu tremblants. Je ne voulais pas d'un film confortable, trop propre, se rappelle Justine Triet. Mais oui, parce qu'elle voulait se rapprocher un petit peu du documentaire. Alors, Anatomie d'une chute a obtenu, évidemment, la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023. Et Justine Triette est une habituée de la croisette puisqu'elle y a présenté la bataille de Solferino, Victoria et Sibyl. Donc l'interprète de Daniel, qui est l'enfant, a été compliqué à trouver. Justine Triette et sa collaboratrice au jeu d'acteur, Cynthia Hara, ont d'abord effectué un casting d'enfants malvoyants pendant 4 mois. Puis comme elle ne trouvait pas, elles ont ouvert le casting aux enfants voyants 3 mois supplémentaires avant de tomber sur Milo. C'est Jill Gaget en renfort casting qui l'a trouvé. Il a tout de suite été impressionnant comme s'il ne jouait pas. Il a appris le piano de manière intensive et puis avec Cynthia, on a cherché ensemble le niveau de malvoyance avec l'aide de personnages spécialisés dans la déficience visuelle. Je ne te raconte pas le travail qu'il y a eu en amont. Nous avons opté pour une malvoyance qui soit la plus légère possible à incarner. Une forte myopie sans atteinte de la vision périphérique. C'est un enfant qui a des capacités intellectuelles et émotionnelles exceptionnelles avec une espèce de vibration mélancolique. Donc le film n'a aucun flashback, à une exception près, la scène des disputes. Justine Triet justifie ce choix. Et comme elle nous dit, l'absence de flashback est une volonté dès le départ. Je n'aime pas ça dans les films, et surtout, je voulais que la parole soit au centre, qu'elle assume tout, qu'elle envahisse tout. C'est comme ça que fonctionne un procès. La vérité échappe, il y a un énorme vide et on n'a que la parole pour le combler. Les seules exceptions qu'on s'est autorisées, elles passent par un travail de son. Donc, il y a évidemment Antoine Reinertz versus Swann Harlow. Donc, Antoine Reinertz incarne l'avocat général. Justine Triet l'a choisi pour la modernité qu'il donnait au personnage. Et comme elle nous dit, il amène de l'altérité dans le film. Il faut rentrer le monde contemporain et ça casse la solennité poussiéreuse du procès. Il joue en quelque sorte le méchant, mais un méchant très séduisant, rétorse, flamboyant. Il parle de la place du mort et doit rendre ce dernier, qu'on ne voit pratiquement jamais, attachant, nous faire saisir, comme au juré, que cet homme mérite d'être défendu. Antoine apporte une dimension d'arène au tribunal, la violence civilisée du parquet. Dans la peau de l'avocat de l'accusé, donc, qui est joué par Swann Harlow, qui joue un personnage assez fragile et sur la défensive, je ne voulais pas de combat de coq entre eux. Vincent n'est pas un virtuose du barreau, il est bon, mais pas idéalisé. Swann amène une subtilité de jeu, une appréhension du fait qu'il connaît sa clientèle. Il se sent du coup plus en danger. Je trouvais intéressant qu'il soit en quelque sorte un double de Samuel, que les deux se ressemblent un peu. On comprend que Sandra et lui se sont connus il y a des années et qu'il y a entre eux quelque chose de pas totalement éteint. Note la cinéaste. Alors c'est un gros travail, de réalisation et de tournage. Alors évidemment, il y a eu des polémiques. Ça fait partie aussi de la publicité. Lorsqu'elle a reçu la tant convoitée Palme d'Or au Festival de Cannes 2023, Justine Triet a prononcé un discours particulièrement critique sur le gouvernement Macron.
C'est vrai.
Oh, la belle affaire.
C'est vrai. C'est elle.
On a entendu bien pire. Oui. En ce qui concerne sa politique culturelle, qu'il met en mal via un néolibéralisme poussé à l'extrême, mais aussi en clamant son admiration pour la contestation de la réforme des retraites, réprimée de façon choquante selon ses propres dires. Oui, c'est vrai que ça a déménagé pas mal. Le ministre de la Culture, dans Rima Abdulmalak, a dit dans la foulée être estomaqué, tout en dénonçant un discours ingrat et injuste, flirtant avec l'extrême gauche. Il y a toujours eu des messages.
Oui, c'est vrai.
Il y a des gens qui se sont lâchés.
C'est un petit peu la vitrine.
Oui, mais ça fait partie du truc aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, je ne suis pas choqué. Il y en a plein qui ont crié leur rancœur, leur crise de ça va pas, leur crise des gens qui dénonçaient certaines choses. Bon, ben voilà, c'est pas... Moi, je dis ça part de la pub.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait le buzz.
Oui, exactement, comme on dit, ça fait le buzz. Donc voilà un petit peu pour vous parler de la Palme d'Or de Cannes, cette année, 2023. Ouais. Voilà, c'est à découvrir à la brèche, Anatomie d'une chute, de Justine Triet.
Avec une très séduisante Sandra Hüller. Il y a un excellent Swann Harlow qu'on va bien sûr évoquer.
Oui, on va disséquer un petit peu.
Disséquer un petit peu.
Ça te parle pas du tout, ça te parle pas.
Ah, mais je vois le visage, je l'ai sous mes yeux.
Oui.
Mais effectivement, éclaire-nous, Pascal.
Et pourtant, ça fait longtemps qu'il tourne.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'il tourne. C'est quelqu'un qui a fait quand même un certain nombre de films. Alors évidemment, à chaque fois, il était en retrait. Il était rarement devant. Et puis on est venu le chercher un peu plus pour des rôles un peu plus conséquents. Mais il a toujours été présent dans le paysage. Cinématographique français, ça c'est sûr. Je vais te citer des noms de films et tu vas me dire ah oui. Swann Harlow, qui es-tu?
Il est français.
Il est acteur français, il est né le 30 novembre 80 à Fontenay-aux-Roses et il a 41 ans. J'ai carrément oublié de noter son nombre de films. Je crois qu'il en a une soixantaine.
Alors j'en ai quelques-uns.
Vas-y.
Alors Petit Paysan.
Non mais ne cite pas, c'est ma filmographie.
Ah, d'accord. Alors.
Non, t'as pas le récapitulatif de tous ces films?
Non. Non, j'ai pas. Non, je les ai pas forcément sous les yeux.
Dommage, j'ai zappé parce que c'est vraiment là. J'ai, bon, Swann Harlow, on va parler de sa filmographie.
Ouais.
Ah, déjà, on le voit déjà. Tu vois, pour 41 ans, il apparaît à l'écran en 91.
Okay, dans la révolte assez jeune. Ouais.
Il a commencé assez jeune. Dans La Révolte des enfants de Gérard Poitou-Weber. avec Michel Aumont et Clémentine Amouroux. En 2005, il va jouer dans Les Aristos de Charlotte de Turckheim avec Jacques Weber et Vincent Desania.
Ouais.
En 2005, on le voit dans Le Temps des Porte-Plumes de Daniel Duval avec Jean-Paul Rouve et Anne Brochet. En 2009, un gros film de Rose Bosch avec Mélanie Laurent et Jean Reno, Gad Elmaleh, La Rafle.
Oui, La Rafle, excellent.
La Rafle, un film incroyable.
Ouais, je me rappelle, ouais.
Enfin, un film sur un fait...
réel, hein.
Sur un fait réel, un historique absolument dramatique. La Rafle d'Ivaldive. En 2010, on le verra dans le film de Luc Besson avec Louise Bourgoin, Gilles Lelouch, Mathieu Amalric, Adèle Blanc-Sec. On le verra là-dedans. En 2017, oui, le film de Hubert Charuel avec Sarah Giraudeau et Bully Lanners, Petit Paysan.
Ah oui, exact.
Il était sur l'affiche.
Ouais.
En 2019, il jouera dans le film de François Ozon. Alors un gros, pareil ici, un gros film sur la pédophilie dans les milieux de la religion avec Melville Poupeau et Denis Ménichet. Grâce à Dieu, en 2019. Hein. En 2022, on le verra dans Vous ne désirez que moi, de Claire Simon avec Emmanuel DeVos et Christophe Pahou. En 2022, on le verra dans un film de Laurent Larivière avec Isabelle Huppert et Lars Eidinger à propos de Joanne. Et en 2023, alors ça, on a fait même une soirée débat. L'établi de Mathias Gokalp, ah oui, avec Mélanie Thierry et Denis Podalides.
Exact.
L'as-tu en photo sur ton smartphone là?
Ah, je l'ai.
Bon, tu vois qui c'est quand même maintenant,
bien sûr. Donc, un excellent acteur, Swan Arlo.
Swan Arlo, oui. Ouais. Un drôle de prénom, un joli prénom d'ailleurs.
Ouais. Peu courant.
Donc on va parler de sa biographie. Donc Swan Arlo débute sa carrière très tôt, en enchaînant les tournages de publicité et en obtenant des petits rôles à la télévision et au cinéma durant les années 90. Il interprète notamment le jeune Lucien dans La Révolte des Enfants. En parallèle, il étudie les arts décoratifs de Strasbourg durant 4 ans et en sort diplômé. C'est dans les années 2000 que son air juvénile lui fait accéder à des rôles d'adolescent un peu fragile et rebelle comme dans Le Temps des Porte-Plumes, où il joue aux côtés d'un autre acteur à l'air enfantin, Laurent Deutsch. Il fait également une apparition dans Les Aristos, la deuxième réalisation de Charlotte de Turckheim, puis tourne dans plusieurs séries à succès comme PJ, Engrenage et Les Bleus. Entre-temps, il réalise deux courts-métrages, Tolérance Zéro et Règlement de Compte. Comme quoi, tu vois, il touche un petit peu à toutes les facettes du ciné. Le temps passant, Swan Arlo monte en jouant des petits rôles aux côtés des plus grands, comme Sandrine Bonnaire, Marina Foïs, Julie Depardieu, Charlotte Rampling, Marion Cotillard, Guillaume Canet et Michel Piccoli, pour ne citer que. En 2010, le comédien intègre le casting de La Rafle qui évoque l'année 42 en France. Il tient enfin un rôle principal dans Extase avec Astrid Bergéas-Frisbee dans Ne nous soumet pas à la tentation. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner celui-ci. Plus tard, il s'adonne aux joies de la pâtisserie avec Pierre Ninet et Benoît Poelvoorde dans la comédie Les émotifs anonymes. Swan joue également auprès de Grégoire Leprince, Ringuet et Pierre Ninet de nouveau dans L'autre monde en compagnie de Louise Bourgoin. Il retrouve d'ailleurs cette dernière dans l'adaptation d'Adèle Blanc-Sec. Et d'ailleurs, dans Adèle Blanc-Sec, je pense que c'est un moment, c'est Luc Besson, il fait un gros plan sur lui, et je crois qu'il est sur les marges de l'opéra, et c'est lui qui vend des journaux.
Ah oui, ouais.
Il donne ensuite la réplique à Emmanuel Seignier et Gérard Depardieu en 2012 dans L'homme qui rit. C'est seulement un an après qu'il obtient de nouveau un premier rôle en incarnant Martin, un jeune homme qui part à la dérive dans le drame Crawl. La même année, il prête ses traits à un baron du XVIe siècle aux côtés de l'acteur international Mads Mikkelsen dans Michael Conlas. C'est vrai. Oui, c'est là que je me souviens de ce film-là. C'est l'histoire d'un comte qui se rebiffe contre l'autorité ducale ou comtale, enfin, ou même royale. Et par contre, tu vois, je ne l'ai même pas vu passer Swan Arlo dedans. C'est marrant, hein. C'est un film très noir. Très noir, très. En plus, il y avait des couleurs assez sombres. En 2014, Swan Arlo joue face à Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Claudia Tagbo dans la comédie Bon Rétablissement. Solide second rôle dans Les Anarchistes ou Le Ciel ni la Terre et The End, la carrière du comédien prend un tournant important lorsqu'il décroche le rôle principal de Petit Paysan. Et c'est là, si tu veux, il se retrouve, on va dire, un petit peu sur le devant de la scène. Parce qu'avant, il avait le deuxième rôle, il était un petit peu en arrière, quoi, tu vois.
Ouais.
Et Petit Paysan, voilà, l'a propulsé. Alors, c'est un film qui a fonctionné, Petit Paysan. Il a fait l'objet d'une soirée débat aussi, hein, sur la paysannerie, les problèmes que rencontrent tous les éleveurs, hein, d'ailleurs. Ce brillant mélange entre le thriller et le drame rural obtient 3 Césars en 2018. Meilleur premier film, meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudot. J'aime beaucoup aussi.
Très bien.
Et oui, je crois qu'elle joue le rôle de sa sœur, donc qui était vétérinaire.
Exact.
Donc ses rôles gagnent alors en importance, comme en témoignent ses prestations dans la comédie policière Un beau voyou, le thriller Exfiltré et la comédie Perdrix. Swann Harlow livre également une prestation bouleversante en victime de pédophilie dans le drame de François Ozon, grâce à Dieu, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, que dire ? Eh bien, on c'est presque un oiseau qui prend son envol, on va dire. Ouais. Il est resté vraiment patient dans des seconds rôles pendant des années. Et là, il commence à ouvrir ses ailes. Hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il va falloir compter.
Ouais.
Et c'est très bien, parce que c'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur. Mais tu le vois d'ailleurs, c'est quelqu'un de très calme, très 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 réservé, très pondéré. Et voilà, je pense qu'il a encore il va nous montrer sûrement de belles choses à l'avenir. Si on lui confie évidemment les rôles qui lui conviennent. Quoi.
En tout cas, je pense que le contrat a été réussi pour ce film. Qu'on vous invite à aller voir à la brèche. Hein.
Alors évidemment, oui, t'as vu, Anatomie d'une chute, il n'est pas dans les premiers rôles. Hein.
Oui, c'est ça. Mais
il est un petit peu en retrait, hein,
il est quand même là. Oui. C'est très important pour un film qui a été primé au Festival de Cannes. Et en tout cas, on lui souhaite un bon vent pour la suite et surtout qu'il nous fasse de belles choses au cinéma.
Exactement.
Pascal, on arrive déjà au terme de l'émission. Le temps passe vite pour cette semaine de rentrée ici à la brèche. Très très heureux en tout cas de te retrouver pour cette nouvelle saison cinéma.
Ouais, c'est reparti. Hein,
et c'était... on se retrouve pour bien sûr vous donner le meilleur des rendez-vous sur le cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande dans ces trois salles, avec aussi des rencontres, des opérations spéciales.
Exactement.
Hein, qu'on va avoir, tout au long de la saison.
Voilà, on reprend les ciné-étés le lundi après-midi pour les personnes des EHPAD, mais tous ceux qui veulent venir entre parenthèses. On va reprendre évidemment les soirées clin d'œil, les soirées à débat. Il y aura ma collègue Marjorie donc de Artec qui va venir aussi pour présenter des films et en débattre aussi parce qu'elle anime aussi des soirées un peu partout et notamment dans nos salles. Donc on reprend vraiment le chemin des écoles. L'été est déjà derrière nous, tu sais.
C'est ça. On se tourne pour la rentrée.
Ouais, on se tourne vraiment vers l'automne. Là, c'est parti. Et puis j'espère que ça sera porteur, hein, qu'il y aura du monde. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, je crois qu'on est parti sur une bonne pente ascendante. Il n'y a aucune raison que ça ralentisse. Hein. Donc, on croise les doigts, mine de rien, parce que rien n'est jamais joué d'avance. Hein.
Voilà, et on invite les auditrices et auditeurs de la radio à venir au cinéma. C'est très important de se faire plaisir dans un magnifique lieu, finalement. On est en mode rural, à la fois avec un cinéma...
Exact.
Qui n'est pas rural, mais qui est très familial.
Un cinéma intercommunal, comme on dit ici.
C'est ça, Pascal. Eh bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle session de Entracte. Et puis, comme d'habitude,
le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est très important. Hein.
Prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air. Et bien, venez, faites fond de rentrée avec nous au cinéma. Il y a vraiment plein de films à voir. Hein. On vous attend avec impatience. À très bientôt, Christophe. À la semaine prochaine.
Et oui, à la semaine prochaine, Pascal.
Voilà, et moi, je souhaite à tous une excellente semaine cinématographique. À très bientôt.
Merci, Pascal.